Daniel, Pascal, tu voulais intervenir ?
Pour un point de méthode et puis pour changer de rôle, pour deux témoignages, puisqu'on lance la discussion. Vous avez dans vos pochettes, et puis on en a d'autres, des petits formats A5. L'objectif qu'on s'est donné en bureau, c'est de continuer à travailler après les journées. On ne pourra pas parler de tout, pas s'exprimer sur tout. Certains ne voudront peut-être pas ou ne pourront peut-être pas intervenir. Donc là, vous pouvez proposer d'être candidat via votre établissement, vous-même ou des collaborateurs, de participer à certains travaux, proposer des idées d'action, d'orientation, de suggestions. On ne le traitera pas en séance, mais on le traitera après, hein, puisqu'il y aura une suite, il y aura un bilan. Donc j'insiste. Après, très rapidement, mais là, sous la casquette assistant au débat, quand on parle des jeux d'acteurs, moi, il me semble, si on regarde ce à quoi on est confronté, enfin, je dirais dans nos établissements, sur nos territoires, il y a un principe de réalité. Il me semble que autant on travaille bien, mal, assez ou pas assez, je ne sais pas, selon les établissements, avec le médico-social. Je pense pour autant qu'on est quand même beaucoup à avoir fait des progrès dans cette direction, y compris en termes de contenu. Que ceci, pour ce qui est de notre région, est précédé, accompagné par l'ARS, il faut le dire. En revanche, quand on regarde les jeux interinstitutionnels, si tant est qu'il existe un jeu, la dimension de relation entre l'ARS et les conseils généraux, pour ce que j'en constate dans ma région, tout au moins en termes de retour vers les établissements ou vers le terrain, me paraît complètement inexistante. Et le principe de réalité, c'est que finalement, les quelques échanges et les quelques réalisations se construisent plutôt, c'est peut-être prétentieux, entre nos établissements et les services du conseil généraux, que je distingue bien des établissements ou réseaux médico-sociaux. Hein. Je parle de là bien de deux choses différentes. À titre anecdotique, et pour préparer la séance, il se trouve qu'elle n'a pas pu venir pour des raisons familiales, j'ai eu le sentiment d'être le premier à informer la première vice-présidente du Conseil général, alors certes, vous m'objecterez qu'elle n'était peut-être pas assez curieuse, de ce qui sera dans le projet, enfin, de ce qui est dans le projet de loi de santé publique. Ça m'interroge quand même un tout petit peu. Et effectivement, les niveaux concrets de collaboration se décrivent plutôt entre les établissements et les services correspondants du Conseil général. Je pense notamment à toute la filière socio-éducative. Ça, c'est une première remarque. Et puis, la deuxième remarque qui est un témoignage, c'est que, effectivement, et c'est très logique, ce n'est pas une critique, on regarde les choses depuis un point de vue santé, en disant on va arriver avec des méthodes, etc., etc. Mais d'autres peuvent avoir des points de vue différents qui, sans nous amener exactement au même résultat, nous feront progresser. Et je dois témoigner, preuve que les choses sont à géométrie variable et qu'on ne doit pas prétendre à l'homogénéité totale, à l'échelle un peu que décrit Madame de Victor, d'une communauté d'agglomération, 95 000 habitants, qui décide de lancer un ABS. Ça ne parle sans doute pas à grand monde, c'est l'analyse des besoins sociaux, qui est un acte obligatoire de toute commune. Sauf que beaucoup ne l'ont pas fait. Et qu'une communauté d'agglomération, ça doit être peut-être même pour certaines maintenant une compétence obligatoire, met en œuvre l'ABS en décidant de l'étendre au moins partiellement au champ de la santé, ce qui est déjà un peu un acte de foi pour l'élu qui a porté ça, à l'échelle d'un centre intercommunal d'action sociale. Et là, il nous demande aux établissements de santé de participer. C'est peut-être pas top, on s'y retrouve peut-être pas complètement, mais la démarche est intéressante, puisque justement, elle ne vient pas de nous. Et qu'on participe à un comité de pilotage où est présent l'hôpital psychiatrique, où est présent l'hôpital général, et où est présent en plus le réseau, la plateforme de santé. Gérard Mix sera là parmi nous cet après-midi pour nous en parler. Donc les initiatives, même si c'est très résiduel, ne viennent pas forcément uniquement de l'ARS, des établissements de santé ou du Conseil général. Et là, on est dans un phénomène anticipé, d'ailleurs, de substitution d'une compétence d'agglo, mais issue de textes existants, à une initiative que, par ailleurs, le Conseil général n'a pas prise.
On va entendre un peu d'accent alsacien maintenant, en donnant la parole à Daniel Carole. Après l'accent grenoblois.
Merci. Oui, je voulais juste relater une petite expérience, non pas tout à fait alsacienne, parce qu'elle ne concerne pas le Haut-Rhin, mais elle ne concerne que le département du Bas-Rhin, donc autour de Strasbourg, et de la communauté urbaine de Strasbourg, puisqu'à la demande insistante René Caillou se fout de moi, là. Je considère que j'ai un accent. Bon, très bien.
Je suis Laurent.
Donc, on a une lettre de commande de la part de l'ARS Alsace d'amélioration du parcours du soin. Comme quoi, donc, la notion de parcours territorialisation n'est pas forcément antinomique. Hein. Donc, en disant, voilà, écoutez, sous la pression un peu des élus locaux de la communauté urbaine de Strasbourg, écoutez, il y a trois acteurs entre le CHU qui dispose d'un secteur, bon, qui n'est pas un secteur qui fait 90 000 habitants, mais plutôt 65 000. Il y a un établissement, Erstein, donc, qui est situé au sud et qui couvre certains quartiers de la ville. Et nous, donc, l'EPSAN, EPS Alsace-Nord, Brumat, Heurth et bientôt Strasbourg, qui couvrons la plus grande partie de la population de la communauté urbaine. Donc, le DG de l'ARS a pris le parti de nous faire confiance en disant, écoutez, rencontrez-vous, travaillez. Donc, moins avec le médico-social dans un premier temps, il faut déjà commencer par le sanitaire, essayer d'améliorer donc, le parcours du patient. On avait déjà l'habitude de travailler au sein d'un service d'urgence qui est situé dans l'enceinte de l'hôpital de Strasbourg, donc au CHU. Et donc, il nous a dit, écoutez, trouvez à la demande des élus et de l'ARS plus de visibilité et de lisibilité. Donc, on a procédé nous-mêmes donc un redécoupage sectoriel. Donc, l'ARS nous regardait un peu par-dessus l'épaule quand même en disant, écoutez, voilà, on va redécouper pour faire en sorte que l'ensemble des secteurs, il y en a trois en ce qui concerne mon établissement, donc qui correspondent au contour de la communauté urbaine de Strasbourg, le secteur du CHU, ainsi que trois secteurs qui sont devenus deux secteurs qui partiellement interviennent au nom d'Erstein. Donc on a fait ce travail avec une lettre de commande, je répète, très importante, lisibilité, visibilité, amélioration du parcours du patient. Alors, il y avait des réflexions, est-ce qu'on va créer un GCS de moyens? Bon, finalement, c'est la voie conventionnelle qui a été retenue et on y travaille, un conseil stratégique, une cellule de coordination médicale. Et donc, pour faire avancer le Schmilblick, ça veut dire que, à mon avis, les deux notions de territorialisation, de sectorisation, d'une part, avec celle d'amélioration du parcours de soins, ne sont pas antinomiques. Donc, je précise que ce projet donc, a été un peu accéléré, puisque nous sommes en train de construire mon établissement, un nouvel hôpital, donc à Strasbourg même, et donc c'était l'occasion rêvée de s'inscrire dans cette amélioration de la lisibilité et de la visibilité en lien avec les élus et avec l'ARS. Voilà, une modeste expérience. Hein.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions ?
C'est moi qui ai le micro, donc je profite. Hubert Meunier, directeur de Vinatier. Un peu dans le prolongement de ce qui a été dit, il me semble que, pour moi, la superposition des territoires, etc., c'est quand même une vieille lune. Et on doit apprendre, et de toute façon, on le vit au quotidien, à travailler sans ce rêve un peu cartésien. Ne serait-ce que parce qu'on travaille au quotidien avec des partenaires qui ont leurs propres espaces. Et donc, qui pourrait concevoir aujourd'hui que demain, la santé aurait ses territoires, qui seraient les mêmes que les collectivités territoriales, qui seraient les mêmes que ceux de l'éducation nationale, qui seraient les mêmes que ceux du ministère de l'Intérieur, qui seraient les mêmes que ceux de l'administration de la magistrature, etc., etc., etc. Donc, il me semble, moi, qu'il faut arriver à dépasser ces choses-là. Il me semble, et en plus, il me semble aussi que ces notions de territorialisation, ça ne résiste même pas aux notions de parcours de santé et de parcours de soins. Parce que penser qu'on pourrait englober un parcours de soins ou de santé d'un patient au sein d'un territoire fini, c'est sembler ignorer que dans un parcours, il y a des soins qui sont de différents niveaux, que par définition, on ne peut pas avoir partout, en tout point du territoire, l'ensemble des dispositifs. Là aussi, je parle sanitaire, mais ça vaut pour la MCO, ça vaut aussi pour la psychiatrie. On ne peut pas penser qu'on puisse avoir en tout point du territoire l'ensemble des dispositifs qu'on peut être amené à offrir à un patient pour, dans le cadre de son parcours. Donc on voit bien que même la notion de secteur rénové, elle ne peut pas s'affranchir des notions de soins de base, de soins de recours, de soins d'expertise. Donc toutes ces notions-là, et je pourrais rajouter que même les constructions plus juridiques, plus administratives de communautés hospitalières de territoire ou de mains de groupement, on voit bien que tout ça, ça ne permet pas à soi seul de répondre aux problématiques. Donc pour moi, ça fait quelques années que j'ai pris le parti de travailler avec des partenaires qui n'ont pas les mêmes espaces, qui n'ont pas les mêmes territoires, qui n'ont pas les mêmes secteurs. Il me semble que dans ce projet de loi, alors j'étais échaudé par HPST, donc j'attends avant de m'y plonger vraiment d'avoir la dernière mouture. Je perdrais peut-être un fil historique de la construction, mais quand même. Il me semble quand même que tel que je comprends le projet de loi, que j'ai quand même lu, il y a une notion de territoire, service territorial de santé au public. Il y a une notion de territoire dont il est légitime que l'ARS préside à la définition des contours. Ensuite, à l'intérieur de ce territoire, un peu contrairement à ce qu'a dit M. Robillard, mais il me semble que les secteurs, il faut leur garder leur dimension première, qui est une dimension clinique. Et dans ce cadre-là, il me semble que ce sont les établissements qui sont, et pas l'ARS, qui sont les plus à même de s'organiser à l'intérieur du territoire qui leur est confié par l'ARS pour déterminer leur secteur. Quand Jacques Maresco dit j'ai appelé l'ARS en 2009 pour dire on va redécouper, ils m'ont dit débrouillez-vous, et ben je pense qu'ils ont très bien fait. Moi je l'ai fait en 2010 et on a écrit à l'ARS en disant voilà, on a retravaillé en interne une longue concertation et on a redéfini nos secteurs. Et maintenant, on a demandé à l'ARS de leur donner un nouveau numéro. Ça a été fait, ça marche très bien. Donc, préservons cela. Il me semble que c'est une richesse. Les derniers mots, la coordination, parce que dans tout cet amoncellement de territoires, d'intervenants, etc., il y a besoin de coordination, on est bien d'accord. Pour moi, la coordination, elle ne peut se faire qu'à deux niveaux. Au niveau des territoires définis par l'ARS et le pilotage de cette coordination de notre côté par l'ARS, ça me paraît légitime. Et puis ensuite, ça a été dit plus avant, ça a été évoqué dans les présentations, surtout une coordination de très proche proximité sur le terrain, autour des patients, avec les acteurs, non pas les décideurs, les politiques, mais les acteurs opérateurs de terrain, et notamment au travers de ce qui se met en place, quelles que soient les collectivités où elles se mettent en place, que ce soit des départements, des métropoles, puisque à Lyon on va être concerné aussi, ou des communes, que peuvent être notamment les conseils locaux de santé mentale. Voilà ce que je souhaitais apporter au débat.
Merci. Éventuellement une dernière intervention, et puis après on passera à l'intervention de Pascal Mariotti de fin de matinée.
Luc Thiel. Alors je m'appelle Thiel, mais je n'ai pas l'accent alsacien. Je veux dire plusieurs petites choses. La psychiatrie travaille avec de nombreuses collectivités territoriales. Elle a besoin d'une référence territoriale. C'est vraiment un territoire de santé. Je travaille dans un département qui, à vue de nez, n'aura jamais de mégapole, ou alors dans très longtemps. Et nous sommes 330 000 habitants en Charente, ou 40 000, avec deux pôles urbains. Les questions financières qui seront abordées pendant ces deux jours font que mon établissement, aujourd'hui, s'il abandonnait les pôles, économiquement, il ne pourrait plus fonctionner. je dirige un établissement qui pratique, vieux terme, l'intersectorialité. Et ça renvoie à d'autres débats, financiers bien sûr, mais aussi le développement de compétences précises pour pouvoir répondre aux besoins du public. Ça veut dire qu'effectivement, la psychiatrie publique, elle doit disposer de soutiers du secteur. On pourrait même leur donner un 14e échelon. C'est pas, la nation n'en mourrait pas. C'est un peu démagogue, d'accord, c'est ce que vous dit mon voisin. Mais quand même. Et ensuite, elle a besoin aussi, pour répondre aux besoins de la population, de développer des connaissances et des pratiques qui correspondent au mode de vie des habitants d'autres pays. Donc, la psychiatrie, elle s'organise aujourd'hui avec des gens qui ont une vie profondément différente de celle qu'on a connue à la Libération. Et on est obligé d'en tenir compte. À partir de là, il faut concilier les deux au sein d'un même établissement. Quant au secteur rénové, je serais tenté de dire, parce qu'il ne faut pas tout demander non plus au secteur, qu'il faut sortir du droit de présentation des notaires, ça je suis d'accord, mais on ne peut pas demander non plus d'aller jusqu'au médecin au pied nu. Donc il faudra trouver un truc entre les deux. Voilà. C'est un débat. Et très content, alors très content, je ne sais pas si la FHF évolue, j'en sais rien, mais du rappel au niveau du service public. Parce que le secteur, c'est un territoire, d'accord, mais c'est autre chose. C'est la garantie aux personnes de pouvoir accéder aux soins, et c'est la garantie donnée aux personnes d'être toujours prises en charge, sans aucun prétexte culturel, financier, etc. C'est ça le secteur. Après, on s'arrange en famille, sous l'égide de l'ARS, qui éventuellement constatera qu'il y a des secteurs. Parce que je suis d'accord avec Maresco, il y a quelques années, ça n'intéressait personne. Maintenant, territoire, proximité, mais en Charente, pas de mégapole, hein. Dommage.
Et du cognac.
Merci. Est-ce qu'il y a éventuellement un dernier commentaire du côté des intervenants de ce matin? Oui, je vous en prie.
Pour travailler beaucoup sur l'action publique territoriale, je m'aperçois, mais c'est vrai pour les chercheurs, c'est vrai pour les professionnels, que la notion de territoire fait l'objet d'usages tellement flous est tellement polysémique qu'on ne sait plus qu'on parle au bout d'un moment. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle des territoires fonctionnels, là où les gens s'accordent entre eux parce qu'ils se connaissent? Est-ce qu'on parle des territoires construits par l'ARS sur l'offre de soins? C'est d'autres territoires. Est-ce qu'on parle des territoires des collectivités territoriales qui sont des territoires d'action et, je vous le rappelle, d'élection quand même? Il ne faut pas l'oublier, c'est difficile d'échapper à ça. Donc, en fait, il y a une espèce d'inflation de la notion de territoire. C'est un peu comme l'inflation de la notion de gouvernance. On l'emploie à tout bout de champ, mais on ne sait pas très bien ce que moi, je dis quand je dis territoire. C'est peut-être pas vous, monsieur, ce que vous dites. Ou, voilà, on peut avoir. Donc, en fait, je pense qu'il y a vraiment... Cette notion de territoire, elle est bien pratique, mais elle est tellement confuse qu'on ne sait plus de quoi on parle, quoi, finalement. Voilà, c'est tout simplement ce que je voulais dire, sans donner de leçons, parce que je pense que c'est vraiment évident dans les discussions qui ont lieu là. Voilà.
Si je puis me permettre d'ajouter, c'est un peu défini quand même, dans l'idée que le service territorial de santé au public doit organiser, faire en sorte que personne ne soit laissé sur le bord de la route en matière d'accès aux soins de premier recours, d'accès aux soins des personnes en situation de handicap, de prévention, santé mentale. En tout cas, c'est bien décrit. Donc, le territoire ne prétend pas englober la totalité de la réponse aux besoins de la population, mais organiser le point d'entrée de la réponse. C'est vraiment un objectif. C'est porteur de valeur, c'est le service public. C'est ce que vous pratiquez. C'est personne en dehors du chemin. Tout le monde sur le territoire doit trouver un début de réponse. Et comme on s'engage après dans la continuité, mais le parcours peut évidemment déborder du territoire. En tout cas, on parle de territoire de proximité, pas des territoires HPST. En Rhône-Alpes, on passerait de 5 à 30, sans doute. Donc, on n'est pas du tout dans la même échelle géographique. C'est vraiment l'échelle où les acteurs peuvent se connaître et construire un cadre de coopération.
Docteur Michelletti, ensuite Jacques Maresco.
Oui, deux ou trois commentaires très rapides. Le premier pour... pour rebondir et pour redire à nouveau, rebondir sur le propos de M. Meunier qui rappelait l'extrême éventail des découpages de l'éducation nationale, des conseils généraux, etc. Et pour simplement rappeler que ça fait partie de l'histoire politique française et de la volonté d'un État centralisateur de créer des dissensions territoriales en périphérie de la capitale pour maîtriser la question du pouvoir. Donc je redis que ne demandons pas à la psychiatrie de résoudre plusieurs siècles d'histoire politique française et je pense qu'on y gagnera en efficacité. Deux autres remarques liées à l'intervention du chef d'établissement de Charente que je salue, que j'ai eu l'occasion de rencontrer sur ces terres. Parce qu'en filigrane de ces deux interventions, il y a des questions qui me semblent très, très importantes pour les équipes sur le terrain. Dans la première intervention de ce matin, il a évoqué la question de la place des usagers et de la représentativité effective des usagers. Je reviens à la thématique des us. On a beaucoup parlé de participation des citoyens. Mon problème aujourd'hui sur les us de Grenoble, c'est que je ne sais pas qui sont les vrais leaders communautaires sur ces territoires. Donc je demande à l'assistance, est-ce que vous êtes capable, avant de faire des PowerPoints sur la participation des citoyens, est-ce que vous êtes capable sur vos territoires de dire à qui il faut véritablement s'adresser pour avoir, ce que là encore, désolé pour le parallèle avec la santé internationale, les vrais leaders communautaires sur les zones urbaines sensibles? Commençons là aussi par résoudre cette question. Et puis donc, relié à ce point, il a évoqué autre chose, qui est une demande récurrente des équipes, c'est la formation sur la thématique de l'ethnopsychiatrie et de l'interculturalité, ceci étant relié avec cela, parce qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, sur les zones urbaines sensibles, il y a toute une population d'origine étrangère et que ça pose problème à nos équipes soignantes dans la dimension interculturelle du soin.
Non, c'est bon. Oui. Oui, ensuite, Madame Trondeau-Chemin. Allez-y, Madame. Alors.
Non, mais c'est. Enfin, je souscris tout à fait à ce que vous venez de dire, mais je voulais ajouter quelque chose qui, du coup, n'a vraiment rien à voir. M'interroger sur les moyens de coordination et d'animation des futurs contrats territoriaux de santé pour coordonner depuis 3 ans maintenant un contrat local de santé. Je mesure, en fait, la nécessité de fonction de coordination pour faire vivre ces dispositifs, parce que la rencontre pour faciliter les passerelles entre les structures, elle ne se fait pas si facilement et si spontanément qu'on l'aimerait. Et c'est souvent le parent pauvre et le parent oublié, cette fonction de coordination. Je ne prêche pas pour mon poste, mais quand on est au niveau communal, c'est facile, on peut trouver un interlocuteur. Quand on est sur de l'intercommunalité et encore plus peut-être sur des territoires qui n'ont pas d'existence légal et pas de compétences en matière de santé, ce sera encore plus compliqué de trouver du répondant en matière d'animation des dispositifs. Voilà.
Monsieur Robillard.
Oui. Juste un petit mot, parce que là, j'aurais vraiment besoin d'une demi-heure, mais je crois que je ne l'ai pas. D'abord parce que... moi, je crois que le lien avec les élus est fondamental en matière de santé mentale, parce que ça permet la déstigmatisation, parce que les élus locaux sont d'excellents vecteurs. Ils ont la confiance des gens et le fait qu'ils se préoccupent de santé mentale, ça me paraît essentiel de ce point de vue. Puis il y a une deuxième raison, c'est que les élus locaux, dans une certaine mesure, maîtrisent les ressources du droit commun, en matière de logement, en matière de culture, en matière sportive, et on pourrait multiplier les exemples. Et de ce point de vue-là, la relation avec eux est fondamentale. Après, je dois reconnaître que cette réforme intervient dans un temps qui est compliqué. Il est compliqué pour les élus locaux parce que, moi qui en suis un, on ne sait pas tout à fait où on habite actuellement. Voilà. La carte territoriale est sur le bureau de l'Assemblée nationale. Je parle pour les régions. Les départements... Vous savez, ce qui arrive, c'est qu'on pensait que les départements se feraient bouffer par les régions. Ce n'est pas du tout ça qui se passe. Elles se font bouffer par les agglos, par les communautés de communes, etc., par l'intercommunalité. Bon. Et le problème, c'est que l'intercommunalité... monte en puissance, ce qui fait baisser la puissance des maires. Donc à tous les échelons, qu'on soit au conseil général, aujourd'hui les présidents de région ne savent pas, ils se doutent un peu de ce qu'ils vont devenir, mais enfin il y en aura moins qu'avant, il va falloir réorganiser l'ensemble, il y aura évidemment des conséquences sur l'organisation de l'État, mais on ne sait pas exactement laquelle. Les présidents de départements, certains savent que, enfin, très clairement, dans l'Île-de-France, les départements devraient disparaître. Ça n'a plus de sens. Et il n'y a pas que dans l'Île-de-France. Et puis, à terme, parce qu'il faut bien voir que cette problématique-là, elle n'est pas spécialement de gauche. C'est-à-dire que quand vous discutez à l'Assemblée nationale, vous discutez avec des députés des deux camps qui constatent tous que sur le terrain, les structures ont considérablement évolué et qu'on est obligé de repenser le système. Et donc, sur la suppression de l'échelon départemental, il y a y compris des élus de droite qui sont d'accord. Regardez les rapports qui précèdent. Revenez au rapport Balladur. Bon, voilà pourquoi cette problématique, elle existera, elle va pas être résolue dans les deux ans qui viennent. Mais elle continuera de se poser, quoi qu'il se passe en 2017. Donc c'est devant nous. Et effectivement, l'échelon départemental, on voit bien qu'est-ce qui reste aujourd'hui. Il reste l'action sociale. Et ce qui est essentiel pour vous. Mais même ça, ça peut se partager. Il y a des agglos qui sont aujourd'hui parfaitement en capacité de le reprendre. Simplement, une communauté de communes qui fait 20 000 habitants, elle ne peut pas. Et puis en plus, il n'y a pas l'échelon. Il faut que parfois, la proximité, c'est sympa, c'est essentiel. Mais un peu de distance, ça ne nuit pas sur certains sujets. Pour pas prendre un exemple en matière psychiatrique, pensez à l'aide sociale à l'enfance. Bon. Qui est un peu de distance par rapport aux parents, c'est parfois important. Ça ne peut pas être le maire du village qui prend la décision. Bon. Voilà quelques exemples. Mais c'est pour ça aussi que c'est compliqué. C'est parce que moi qui suis élu local, même si je ne cumule pas, je sais qu'on ne sait pas exactement dans quel environnement. On sait qu'il est en plein chamboulement et qu'il y en a pour 10 ans à le stabiliser. Bon. Et la réforme de Marisol Touraine intervient dans ce même délai. Ceci dit, la ministre de la Santé a l'avantage d'avoir une longue expérience comme élu local.
Merci beaucoup. Bon, mais je pense qu'on va pouvoir clore ces échanges autour de la table ronde. Pascal, oui. D'accord. D'accord. Alors, simplement deux mots pour dire que ce que j'ai trouvé intéressant ce matin, c'est qu'en fait, on reste sur beaucoup de choses non résolues, beaucoup d'incertitudes. C'est vrai qu'on pourrait se dire, le but, c'est de sortir avec un schéma simple, mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de schéma simple qui se dégage, hein, bon, notamment par rapport à cette conciliation entre démarche ascendante et démarche descendante. Bon, je pense que ce qui est intéressant, c'est le brassage des cultures professionnelles, de voir arriver de nouveaux acteurs avec des logiques professionnelles différentes, une expérience différente. Sur Marseille, on est en train de travailler à travers le Conseil local de santé mentale sur toute une thématique sur l'accès au logement des personnes souffrant de handicap psychique. Et à propos de brassage des cultures professionnelles, à Marseille, on a un atelier santé-ville, santé-mentale, ce qui n'est pas d'ailleurs très très courant. Et on a vu arriver donc le coordonnateur de cet atelier. Et c'est vrai que dans un premier temps, nous les hospitaliers, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire dans nos débats? On est assez grand pour promouvoir nos organisations, etc. Et puis, j'ai pris la peine de relire les textes et puis de voir quelles étaient les compétences d'un atelier santé-ville, santé-mentale. C'était tout à fait dans son registre d'intervention que d'aller mettre son nez, y compris dans des affaires plutôt hospitalières, du fait de son champ de compétences très transversal. Et l'arrivée de cette personne, alors sur un mode un peu inhabituel, parce que la transversalité, nous on a quand même beaucoup l'habitude de discuter de manière très cloisonnée, ça apporte beaucoup de choses. Donc je crois que c'est ça l'intérêt du croisement des démarches, et ça nous aidera justement à dégager ensemble des solutions qui seront, bon, j'espère, à la hauteur des évolutions en cours. Merci en tout cas, messieurs, pour votre participation, et mesdames, messieurs, pour ces échanges.